les rendez-vous de Rosendo. Les rendez-vous de Rosendo, tous les dimanches à 13h, le mardi à 23h, et aujourd'hui, Rosendo reçoit Jean-Luc Bousquet.
Bonjour à tous, bienvenue à notre émission. Je suis avec Jean-Luc Bousquet, un artiste peintre toulousain, pur autodidacte qui vient tard à la peinture, ou plutôt à la matière. Chaux, zinc, métal, bitume, pierre, ciment, etc. Ses choix de matériaux nous éclairent indirectement sur son univers, ou plus précisément sur son univers fantasmé, et plante un décor urbain où se croisent les ombres de Kerouac, Céline, Lou Reed ou encore Bukowski, Charlie Bukowski. Ses créations évoquent l'inexorable érosion du temps et ses tableaux sont souvent le fruit d'un processus de destruction, de dégradation ou d'oxydation. Au final, un travail qui apprivoise l'inéluctable dans la matière, dans un ironique pied de nez au temps. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Ça va?
Oui, très bien. Oui.
Est-ce que cette présentation
ça fait un peu,
te convient?
Oui, bien sûr. Mais ça fait un peu pompeux, mais effectivement, ça va, ça résume assez. Oui.
Oui. Et je souligne au pur autodidacte cette affirmation sur la manière comme tu as apprivoisé ou comment la peinture t'a apprivoisé. Et est venu tard. Mmh. Tu le proclames, tu le signales dans tes expositions. Et pour toi, tard, ça veut dire quoi?
Ah, ça veut dire tard, ça veut dire, je vais pas dire mon âge, mais enfin, disons que ça fait une quinzaine d'années et j'ai déjà un âge assez avancé, on va dire. Mmh. Et donc, avant, il y a eu la musique, il y a eu l'écriture, et puis c'était pas un univers a priori vers lequel je me destinais la peinture, donc, et ça a été un petit peu un hasard, quoi, finalement. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui au départ ne se sentent pas, enfin, pour qui la peinture représente quelque chose d'un petit peu une montagne, quoi. Ça semble quelque chose auquel on peut pas accéder vraiment. Et c'était mon cas, donc il a fallu beaucoup de temps, et donc c'était pas fait pour moi. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte, avec le hasard effectivement, que ben, finalement c'était peut-être pas si difficile, et qu'on pouvait s'en approcher, qu'on pouvait arriver à sortir quelque chose de soi à travers la peinture, quoi.
Donc voilà. Avant que tu décides de faire de la peinture, mm-hmm. Quand même tu avais une influence déjà.
Disons que je pense que j'ai toujours eu une âme un petit peu artistique, entre parenthèses, mm-hmm. puisque j'ai fait de la musique plus jeune, mm-hmm. que j'aime bien écrire, que je dessinais aussi un petit peu, que je m'intéressais aux choses de l'art. Donc quelque part, il y avait quand même un ferment, il y avait quelque chose, quoi. Pas obligatoirement directement la peinture, quoi.
Dans la présentation que je viens de faire, mm-hmm. il y a un peintre, Basquiat. Mm-hmm. Et à quel moment tu l'as découvert?
À quel moment j'ai découvert Basquiat? Je l'ai découvert relativement tard, lui aussi. Et ça a été une révélation. J'ai vu les deux films, La Fiction et puis le documentaire sur lui. Et ça m'a fait chialer, parce que vraiment c'était fort. Alors bien sûr, Basquiat, il y a l'œuvre, il y a le personnage. Je crois qu'on peut pas trop dissocier l'un de l'autre. Mm-hmm. Et bien sûr, ça fait résonner des choses, pas mal de choses en moi, parce que, comme je l'ai dit, ou peut-être pas dit encore au micro, mmh. mais je suis issu, ou bercé en tout cas, par la culture rock, entre parenthèses, années 70, 80. Et donc, tout ce qui va avec, on va dire. Donc ça, effectivement, ça fait résonner quelque chose. Basquiat a fait résonner quelque chose, quoi.
Est-ce que le fait que Basquiat a commencé à écrire des poèmes sur les murs, mmh. a été un point d'articulation avec toi, parce que tu as d'abord commencé par l'écriture?
Oui, pas sur les murs, j'aurais bien aimé. Mais bon, on peut pas être de toutes les époques, effectivement. Donc moi, j'ai jamais peint, ni travaillé, ni écrit sur les murs, mais effectivement, j'écris. Ouais, j'écris. Voilà,
Donc les parcours de Basquiat qui t'a frappé par son écriture ou par la manière
dont il essaie de la trace. Le personnage aussi de Basquiat, cette espèce de j'allais dire de désillusion latente. Je sais pas si vous avez vu le film, mais on le voit lors de sa première exposition qui est alors un succès phénoménal puisque tout le monde s'arrache ses tableaux. Lui quitte subrepticement le vernissage et se retrouve dans un taxi et on va dire se fait une petite ligne pour se changer les idées apparemment parce que je sais pas s'il est, je crois qu'il est pas dupe complètement et qu'il y a toujours cette faille quoi. Mm-hmm. Le succès arrive, ok, c'est bien, mais voilà, je pense qu'il reste quand même avec lui-même quoi.
Mm-hmm. Oui. Et il y a un autre peintre qui a marqué aussi ton parcours, c'est dans un autre registre bien sûr, mm-hmm. c'est Turner. Alors, Turner.
Ah, Turner, pour moi, c'est un maître, quoi, je veux dire. Au moment où tout le monde faisait, pardon, au moment où tout le monde, je veux dire, il a cassé les codes, voilà. Tout d'un coup, des toiles saturées de lumière avec juste un petit trait, qu'on aperçoit, notamment, je connais pas le nom des tableaux, mais peu importe, les gens qui connaissent le Véron.
On parle de ces marines, de ces paysages.
De ces paysages, et notamment, par exemple, il y a Londres en flamme, il a pris Londres en flamme, donc il a fait des tableaux, enfin, un tableau absolument sublime, où il y a encore un tableau où on voit juste un train, qui est figuré par, enfin, il y a une forme, et le reste du tableau est saturé de lumière jaune, quoi.
Oui.
Voilà, tout d'un coup, il a inventé l'art moderne, quoi. Tout d'un coup, il cassait tous les codes. Alors, quand on le regarde maintenant, parfois, on se dit, bon, oui, mais ça a été déjà vu. Mais non, lui, c'est lui qui l'a fait le premier, quoi. Enfin, voilà. Donc, il faut, c'est ça aussi, je veux pas être pédant, mais la peinture, c'est ça aussi, c'est petit à petit rentrer dans l'histoire de la peinture, savoir qui a fait quoi, à quel moment, et c'est important, quoi. Ça permet de situer, parfois, on voit un tableau, mais oui, bon, ouais, je l'ai déjà vu. Mais quand on sait que le gars, c'est la première fois, lui, c'est lui le premier qui, à un moment, a fait ça, c'est superbe. On se dit, voilà, lui, c'est un bon.
Mm-hmm. Donc, si on fait le lien entre l'abstraction, disons, de Turner, parce que lui, il partait de Londres, partait de ses maris, dans ses paysages, mais dans la représentation, il y avait un éclat de couleurs et de lumières que, au départ, on pouvait imaginer de la peinture abstraite, déjà.
Oui, pour moi, il commence, oui. C'est lui qui, enfin, c'est un de ceux, en tout cas, qui commence, oui.
Oui. Donc, entre lui, la peinture abstraite, les écrits, les traces qu'il laissait Jean-Michel Basquiat sur les murs, est-ce que tu as été versé par cette abstraction? Parce que tes peintures, peut-être qu'on l'a pas dit assez dans ta présentation, ta peinture est abstraite.
Oui, abstraite, mais parfois on peut retrouver un peu de figuratif. Il y a pas.
Tu as un tableau comme le soleil.
Oui, voilà. En fait, essentiellement abstraite. Oui. C'est-à-dire que je travaille la matière d'abord. Mm-hmm. Je travaille essentiellement la matière. Les couleurs, je dirais, arrivent un petit peu subrepticement. Mais voilà, il y a une période au départ où c'était essentiellement du goudron, du bitume ou du goudron. Donc c'est noir, le goudron, par définition. Et donc, ça, par contre, ça permet, paradoxalement, ça permet de travailler vraiment. C'est agréable à travailler. Bon, ça sent un petit peu le goudron, bien sûr. Mais c'est agréable à travailler. C'est un peu la consistance du yaourt, on va dire. Mm-hmm. Donc, ça se malaxe très bien. On peut faire des fractures, on peut faire des aplats, on peut faire des stries, on peut faire beaucoup de choses. Et donc, au départ, c'était ça, quoi. La matière qui m'intéressait. Donc, la couleur vient un petit peu souvent rajouter ou souligner ou voilà au départ. Après, bien sûr, ça évolue. We'll be right back.
I fight with the handle of my little brown broom. I pull out the wires of the telephone. I hurt in the head and I hurt in the aching bone. Now I smash up the telly with remains of the broken phone. I'm fighting for the crust of the little brown loaf. I want it. Give it to me. I give it you back when I finish the lunch tea.
C'était Robert Wyatt, Little Red Robin Hood, Hit the Road. Robert Wyatt, donc, qui était avec Soft Machine avant de se produire tout seul et un pur génie.
Nous sommes avec Jean-Luc Bousquet. Jean-Luc, tu as fait de la radio dans dans ta bio. Et cette expérience de la radio, alors, n'est pas étrangère pour toi.
Elle n'est pas étrangère, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de radio. Ça doit remonter à 15 ou 16 ou 17 ans, je sais plus exactement. Et je pense que j'ai beaucoup perdu. Enfin, je me souviens pas trop, si tu veux.
Et pourquoi tu la faisais, cette émission? Qu'est-ce que tu faisais?
Ah, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait 15 ans, pendant 15 ans, donc je faisais. J'ai eu un petit peu toutes les casquettes.
Ah, c'est pour cela que j'aime Bukowski aussi, parce qu'il a fait beaucoup des choses.
Charles Bukowski. Non, pas du tout, non. J'aime Bukowski parce que c'est quelqu'un que je ressens profondément. Mm-hmm. Non, ça n'a rien à voir avec la radio. La radio, il y a eu une période très sympa, bon, que je vais jouer le vieux, mais que vous n'avez pas connu, c'est puisque j'ai participé au tout début à la libération des radios libres en 81 par Mitterrand, donc.
Oui.
Et là, c'était bien, parce que c'était le gros foutoir, ça partait dans tous les sens, c'était très mauvais techniquement, il y avait des blancs qui duraient 5 minutes, mais c'était sympa parce que tout d'un coup, tout le monde avait la parole, tout le monde parlait, ça partait bien sûr dans tous les sens. Après, ça s'est codifié, il y a eu les sous qui sont rentrés là-dedans, puis c'est devenu beaucoup plus formaté, beaucoup plus structuré. Et moi, j'étais au milieu de tout ça, donc un peu, voilà. Mais c'est loin, très loin.
Bien, on va revenir donc à ton œuvre.
Oui.
Et dans la série des tableaux que tu as présenté à Blagnac, c'était en 2011, une exposition, la grande exposition que tu as eue à au-dessus de Blagnac,
oui, simplement. Oui.
Et il y a eu la présence d'une série de tableaux où les bleus de Prusse, pour être plus exact, c'est cohabiter avec les noirs. Alors, en coulisses, je te disais que c'est bleu. J'ai un mauvais souvenir. Pourquoi? Parce que quand j'étais étudiant des Beaux-Arts, on utilisait beaucoup, parce que c'était joli, c'était beau, ça s'harmonisait très bien. Mais notre prof de peinture nous disait « Attention, parce que c'est bleu, c'est un assassin. » « Ah bon ? Et pourquoi c'est un assassin ?» Oui, parce qu'au bout de 10 ou 15 ans, il va virer, il va changer, et du coup, va tuer votre tableau.
Il va donc, le tuer ou il va le changer ?
Il va le changer, oui. Donc, toi, comment tu l'as utilisé beaucoup dans cette exposition de... Alors, qu'est-ce que c'est devenu ce bleu ? Est-ce que tu as fait des misères, ces bleus ?
Ah, pour l'instant, il ne m'a pas fait de misère. Mais moi, je suis vicieux parce que je ne le garde pas tel quel, le bleu de Prusse, je le noircis. Donc, je ne sais pas si ça aura cet effet. Mais on parlait aussi tout à l'heure de certaines œuvres, de certains tableaux, puisque je fais aussi des oxydations, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, des oxydations sur zinc.
Oui, là maintenant, oui, voilà. On est en plein
dedans. Et tu me disais qu'il y avait des tableaux qui étaient évolutifs, on va dire, c'est-à-dire que des artistes présentaient des tableaux avec des fourmis, notamment, enfin en tout cas, le tableau évoluait dans le temps, voilà. Et tu me demandais si moi, le zinc ne continuait pas à s'oxyder, je te dis, je le fixe avec un vernis, mais on c'est une bonne idée, en tout cas, on pourrait très bien envisager et imaginer, effectivement, de laisser le tableau continuer à travailler, et après tout, on aurait une œuvre évolutive dans le temps, ça pourrait être très très bien. Et donc, ça pourrait être le cas avec les bleus de Prusse. Cela dit, je ne sais pas, j'ai pas assez de recul pour savoir s'ils ont viré. En tout cas, s'ils ont viré, il y en a certains qui ont été achetés, donc je risque d'être très embêté.
Donc tu n'as pas la garantie décennale sur ces bleus de Prusse.
Non.
Mais ma question sur l'évolution de ces tableaux, c'était au sujet de ton œuvre. Qui travaille sur la destruction, sur la dégradation.
C'est pour donc, cela qu'il m'est semblé pertinent. Donc finalement, inconsciemment, c'est dans l'esprit. Si un jour il bouge, ce sera peut-être parce qu'il devait bouger, parce que finalement, effectivement, souvent je crée, on va dire, enfin je crée. Les tableaux se font par un processus, comme tu l'as dit au début, par un processus de grattage, de dégradation. C'est-à-dire que c'est plus souvent... Après maintes couches, je regratte et les choses apparaissent et puis je laisse certaines apparaître davantage. Enfin voilà, il y a un processus de destruction après avoir mis plusieurs couches. Voilà, ça se fait comme ça, quoi. Donc.
Alors Jean-Luc, on va laisser tranquille les bleus. Passons aussi à la couleur en tant que pigment, à la couleur noire. Alors, tu travailles avec les bitumes, avec les goudrons. Tout à l'heure, tu nous parlais sur cette consistance un peu comme des yaourts. C'est ta pâte qui va devenir, selon la lumière d'exposition, plus ou moins saturée, plus ou moins terne, avec des brillances, avec des reflets, avec les reliefs.
Des couleurs qui apparaissent.
Oui, des couleurs
qui
apparaissent.
Des bleus, des gris.
Oui. Donc, je vais peut-être tomber dans cet archétype de questions sur l'art contemporain. C'est-à-dire un peintre qui est très en vue. Je te parle d'un peintre de Rodez.
Oui.
Donc, les noirs, je ne vais pas faire une émission sur lui, c'est une émission sur toi, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que, en tant que toi, spécialiste des goudrons, des bitumes, qu'est-ce que tu en penses sur le travail, les recherches que fait ce monsieur. Je parle évidemment
de Soulage.
De Soulage, oui.
Mais ce qui se passe, souvent, les gens qui ne connaissent pas, enfin, qui découvrent mon travail, on va dire, disent, ça fait penser à Soulage. Moi, je me revendique pas de tel, si tant est que je puisse me revendiquer de quoi que ce soit. Mais je veux dire, effectivement, c'est du noir. Enfin, en tout cas, avant, c'était du noir. Ça a évolué, donc maintenant, je suis plus uniquement dans le noir. Mais moi, j'adore le travail de Soulage, bien évidemment. Mais je ne prétends pas une seconde à quoi que ce soit. Voilà. Encore une fois, je me sens plus proche de peintres comme Basquiat ou ta pièce aussi, puisqu'il y a la matière, enfin des gens comme ça, quoi, plus que de Soulage, même si effectivement il y a le noir, il y a les stries, il y a la lumière qui apparaît dans le noir, effectivement, parce que c'est son cheminement à lui, l'outre noir, donc de faire apparaître de la lumière à travers ces noirs, donc voilà, mais je me sens pas du tout voilà.
Merci
Et puis, mais ça reste un très grand. Voilà.
Merci pour par ces commentaires. Et donc, je voulais venir maintenant à la description des, même si c'est difficile d'écrire une peinture abstraite.
Oui.
C'est un grand défi. Un de tes tableaux.
À la description d'un tableau, d'accord.
Et bien, je vais oser la faire.
Mais.
Alors, je choisis les bleus. Il y a des reflets bleutés, bien sûr, parce que je ne t'associe pas avec les peintres dont on vient de parler, Soulages, non, que j'ai certaines réserves, surtout sur la dernière époque, la manière comment ils réutilisent les noirs. Mais je ne vais pas trop étaler là-dessus, je vais parler de Jean-Luc Bousquet plutôt.
Absolument.
Donc, dans ces tableaux que j'ai choisis, c'est un tableau sans titre, et qui est posé sur les zincs, c'est le support, ce n'est pas la toile, ce n'est pas les bois, parce que toi utilises parfois les bois, c'est du zinc que tu as dégradé ou tu es intervenu par l'oxydation. Donc il y a plusieurs tonalités du blanc par la matière même qui s'est décomposée. Et j'ai appris après que tu l'as verni pour arrêter l'oxydation. Mais pour parler de la composition, disons que la partie supérieure est plus claire, la partie inférieure plus foncée. Et par-dessus, tu as travaillé avec des petites coulures ou des gestes assez violents, comme si les noirs et les blancs, des petites traces dégoulinées, ou éclaboussées plutôt, parce que c'est une trace un peu plus violente. Ce n'est pas la lenteur de la coulure, c'est plutôt les gestes. Un fil de cuivre et un autre morceau de zinc qui est découpé. Et ce qui m'a surpris de voir tout à fait dans la partie inférieure de ces tableaux, c'était un instrument de précision. C'est-à-dire qu'on était en plein dedans dans l'abstraction et paf, tout nous rappelle qu'il y a la présence de la peinture en tant que...
Un manomètre.
Un manomètre, oui, voilà. Bon, voilà, alors je te laisse compléter les commentaires ou...
Commenter mon commentaire. C'est à moi alors de commenter le tableau, du coup. mais je c'est un exercice que je ne fais pas, mais bon, parce qu'en fait, comme je te l'ai dit, quand je suis face à la toile, enfin, en l'occurrence souvent du bois donc ou du zinc, il n'y a pas d'idée préconçue. Je ne sais pas du tout où je vais. Je ne sais pas. Je suis là face à mon bout de bois, enfin à ma planche ou à mon bout de zinc. Je ne sais pas. Donc ça démarre. Alors quand c'est oxydé déjà, parce qu'il y a une oxydation sur le zinc naturelle, quand c'est oxydé, ça donne des pistes effectivement, et on peut aller dans un sens ou dans un autre. Mais mon but c'est pas c'est plus de l'émotion que l'explique, comment dire, que chercher à exprimer quoi que ce soit. Mm-hmm. Je sais plus qui c'est qui a dit un tableau c'est 50 ans de vie et une heure. Et moi, pour moi, c'est ça. Alors après, c'est peut-être 50 un peu plus et un peu plus d'une heure. Mais enfin, c'est ça. Le schéma, il est là, quoi. C'est-à-dire, il y a une expérience accumulée avec les ans. Et ensuite, quand je suis devant, j'y vais. Alors, des fois, ça marche. Des fois, ça marche pas. Des fois, c'est jubilatoire. Des fois, ça l'est pas. Mais il n'y a pas d'idée préconçue. Donc ensuite, bien sûr, ensuite il y a des recherches d'harmonie, des recherches d'harmonie. Je peux pas dire davantage. Et donc après, il faut que ça parle, que ça me parle à moi, bien évidemment. Et j'espère que ça va parler aux gens qui vont le regarder.
Baby's on fire. Better throw her in the water. Look at her laughing like a heifer to the slaughter. Baby's on fire, and all the laughing boys are binging, waiting for photos. Oh, the plot is so bewitching. Rescuers, row, row, do your best to change the subject. Distance to the object. Photographer's snip snap. Take your time, she's only burning. This kind of experience is necessary for her learning. If you'll be my flotsam, I could be half the man I used to. They said you were hot star. Babies be reduced to.
Juanita and Juan, very clever with maracas, making their fortunes, selling second-hand tobacco. Juan dances at Chico's, and when the clients are in Nickelhead, he empties the ashtrays and pockets all that he's collected. But babies are crying, and all the instruments agree that the temperature's rising, and any idiot would know that.
On a fait Gigi, extrait d'Here Comes the Warm Jets de Brian Eno, le premier album de Brian Eno. Nous avons écouté Babies on the Fire avec la participation de Robert Fripp, créateur de King Crimson, Robert Fripp, donc à la guitare.
Oui, c'était bien, le solo de Robert Fripp. Non?
Voilà, Robert Fripp.
Oui. Et très bien, Jean-Luc, Jean-Luc Bousquet, nous sommes avec l'artiste peintre, mais je voudrais ajouter plutôt plasticien, en plus, parce que Jean-Luc travaille avec les goudrons, Lachaud, comme tu le montres dans tes derniers tableaux, qui sont un peu plus clairs que les goudrons, un peu plus clairs
la cendre,
oui. Et pour fixer la cendre, comment tu fais ?
Avec de la colle blanche. Moi, je connais pas trop les noms, mais en fait, c'est une colle blanche qui sert également à fixer pour le papier, notamment quoi. Le nom, je saurais pas te dire. Ou alors avec des vernis aussi. Avec du vernis, ça m'arrive de mélanger. Ou mélanger à la peinture aussi.
Et le vernis, tu l'appliques avec un pulvérisateur ou...
Oui, pulvérisateur. Oui, oui. Oui, oui. Au début au pinceau, maintenant au pulvérisateur. Mais essentiellement avec de la colle, cette fameuse colle blanche là.
Oui.
Je sais pas, peut-être tu connais le nom.
La colle à bois, non ?
Oui, la colle à bois, oui,
c'est connu comme la colle à bois. Oui. Alors, dans tes fiches, j'ai eu le plaisir de découvrir que tu aimes un écrivain que j'adore spécialement, mais je le connais pas aussi bien que toi.
Oh.
Il s'agit de parce que tu as lu tous ses livres quand même. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir Je lis quelques-uns de ses livres, ses poèmes, et évidemment, nous parlons de Charles Bukowski, écrivain, poète américain.
Mmh. Grand poète et grand écrivain américain, qui, à mon avis, n'a pas la place qu'il mérite, mais enfin, il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Mais je crois qu'en plus, il a pas la place qu'il mérite, mais il a fait tout pour qu'on reste en famille, en fait. Voilà, je crois qu'il n'avait pas envie. Je pense que certains n'avaient pas envie d'être lu peut-être par certains. Je pense ça.
Oui. Et en plus, ce que j'ai remarqué parmi les personnes avec lesquelles je parlais de Charles Bukowski, c'était une espèce de attirance à répulsion, ou une espèce d'incompréhension, parce que ces personnes, heureusement, ce n'est pas la majorité des personnes avec qui je parle de Bukowski, mais ça me faisait craindre que Bukowski soit perçu un peu comme le poète maudit et qu'on l'apprécie plutôt par les côtés scandaleux, les côtés un peu révoltants, que par la qualité de sa poésie. Parce que ce que j'admire le plus de Bukowski, ce n'est pas ses coups de gueule, ses ibrogneries, ses scandales, non? Parce que ça, c'est partie de son expression, mais...
Mais les gens croient souvent que des poètes comme ça jouent un rôle, voilà, et puis bâtissent une espèce de notoriété à travers ça. Moi, je pense qu'ils sont comme ça, et donc ils sont comme ça. Je pense que Bukowski ne s'amusait pas à boire des bières et des litres de blanc et de whisky juste pour paraître, pour que son image corresponde à... Voilà. Je pense qu'il était comme ça, point. Et puis, s'il était comme ça, c'est que quelque part, il y avait quelque chose à l'intérieur qui était détruit. Voilà. Donc, on peut pas reprocher à quelqu'un d'écrire ou ne voir qu'une parcelle. Voilà, quoi.
Alors, comment tu es tombé sur lui?
Oh, je me souviens pas. Comment j'ai tombé sur lui, je ne me souviens pas. On a dû m'en parler à une époque, je ne sais pas trop. C'est vrai que quand j'ai découvert, ça a été, oui, une révélation, parce qu'en fait, c'est simple en apparence, quoi. Et le plus simple, enfin, tu le sais, toi aussi, puisque tu peins, le plus simple en apparence, pour arriver à la simplicité, il faut passer par beaucoup, 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 beaucoup de travail, quoi. Et c'est sûr que quand on lit certaines choses, on se dit, ouais, bon, mais oui, oui. Il y a un poème notamment là, qui s'appelle L'Enfer est un endroit solitaire. Je vais pas vous le lire parce que je l'ai sous les yeux, mais je vais pas vous
oui,
le lire.
Oui, mais tu peux nous faire un petit texte. Mais quand même, Jean-Luc.
En fait, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme dont la femme a la maladie d'Alzheimer. Lui, il a un cancer de la mâchoire. Il doit retourner encore une fois se faire opérer. On lui dit qu'on va lui enlever la moitié des os et tout, et une partie de la langue. Donc, il rentre chez lui. Il en peut plus, le gars, hein. Et puis, c'est quoi leur vie? Donc, il rentre chez lui. Il regarde les infos. Et puis, rentrant chez lui, donc il changea les couches de sa femme, mis à chauffer les repas télé, regarda les informations du soir, puis alla dans la chambre, prit le revolver, le posa contre la table de sa femme, tira. Elle tomba sur le côté gauche, il s'assit sur le canapé, mit le canon dans sa bouche, pressa la détente. Les coups de feu ne troublèrent pas les voisins, les repas télé qui brûlaient, si. Quelqu'un arriva, poussa la porte, vit. La police arriva, fit le travail habituel, trouva des choses, un livret de caisse d'épargne vide et un carnet de chèques avec un solde de 1,14 $. Suicide, ils conclurent. 3 semaines plus tard, il y avait 2 nouveaux locataires, un informaticien du nom de Ross et sa femme Anatana qui prenait des cours de danse. Ils avaient l'air de n'importe quel couple en phase d'ascension sociale. Ouais, pour moi, tout est dit, quoi, je veux dire. Tu vis, tu meurs. S'en fout, il y a d'autres qui arrivent, qui prennent la place et ça continue. À quoi ça rime, on ne sait pas. Là, une page et demie raconte la vie, voilà. Moi, pour moi, c'est énorme. Après, bon, voilà.
Ah oui, tu partages, c'est senti bon.
Et pour, juste pour, parce que bon, c'est pas très, très gay, mais juste pour, quand on parlait de, tout à l'heure, de rester en famille, de qui n'écrivait pas pour avoir des amis, quoi. Il y a un poème qui s'appelle J'aime bien vos livres. Et donc il rencontre quelqu'un qui vient lui parler de ses bouquins, enfin, etc. Et la course suivante, je prends la fille, jette un coup d'œil derrière moi, il n'est pas là, donc celui qui est en train de la merder avec, voilà. Et encore un lecteur de perdu, j'en perds 2 ou 3 chaque semaine, très bien, qu'il retourne à Kafka. Là,
c'est... Mais justement, j'étais en train de me souvenir au moment que tu racontais cette histoire d'un lecteur de perdu, je me souviens d'un poème que j'ai lu de lui qui s'appelle L'Oiseau Bleu.
Oui.
Ah, tu le connais?
Oui, c'est un poème d'amour, super.
Oui, oui.
Ah, donc, c'est un des seuls poèmes où il est, oui, oui, oui.
Oui, donc il parle d'une, j'ai apprivoisé, mais je ne peux pas l'inciter, je n'ai pas...
L'oiseau bleu, textes. Je crois. C'est...
L'oiseau bleu, j'essaie de l'apprivoiser. Ouais. Et qu'importe si je perds mes ventes en Europe, parce qu'il déjà était déjà renommé. Donc il savait qu'en écrivant un poème d'amour, pouvait contrarier certains lecteurs. Et du coup, il s'est foutu de tout, lui. Hein. Il était...
La preuve qu'il ne cherchait pas à être aimé, connu, adulé. Il écrivait ce qu'il avait sur le cœur, ce qu'il sentait au moment où il le sentait. Quoi. Et avec la rigueur, en plus, avec la rigueur du poète, enfin de l'écrivain et du poète, quoi.
Un véritable artiste pour moi.
Absolument.
Serge Bukowski.
Absolument.
Et il mériterait à lui tout seul une émission.
Et ah ben bah écoute, Bukowski. Moi, je serai avec plaisir. Si
ah oui, voilà. Donc
on en parle un peu plus.
Serge Bukowski, oui,
ouais, ouais.
Très bien. Mais, je vis dans tes fiches, au moment de préparer l'émission, que parmi tes goûts cinématographiques, il y a pas mal des réalisateurs que je partage, non? Mais avant de parler de de tes choix cinématographiques, j'aimerais citer un film qui m'a fait découvrir, c'est un peu post-mortem, hein, un film qui a été fait après sa mort, de Bukowski, c'était Factotum.
Factotum, ouais.
Qui était inspiré de livres éponymes.
Ouais.
Et c'est Matt Dillon, je crois, que c'était les comédiens.
Je sais pas. Je me rappelle pas, mais oui.
Oui, donc, il est fait par un Norvégien, les réalisateurs des Norvégiens. Attends, je vais retrouver son nom.
C'est relativement récent, non, Factotum?
2005.
Ah, voilà, oui, 2005, enfin, voilà, oui.
Oui, parce qu'il est mort en 94.
Je crois que je l'ai pas vu, en fait.
Oui.
Mais c'est difficile aussi, je pense, le cinéma, quand le cinéma s'empare de la vie, comme ça.
Mais
c'était bien, quand même.
Ben Hammer, à mon avis, il a bien restitué l'essence de son œuvre, de sa vie.
Mm-hmm.
Et surtout qu'il a affirmé un parti pris, et au moment de présenter les travails de ce qui signifie être artiste. Mm-hmm. Dans le sens le plus noble de la poésie. Dans le sens que Platon disait, non, Aristote le signalait, non. Pour moi, l'artiste premier, c'est le poète.
Bien sûr, bien sûr. ce mathématicien, le poète, c'est, oui.
C'est
la dantelle.
C'est pour ça que Platon voulait les rendre en esclavage dans la société idéale, parce que les poètes sont capables d'inflammer les esprits. Bon, alors venons à ton film. Bon, il y en a pas mal. Je voudrais que tu me parles, parce que je l'ai vu et revu plusieurs fois, les films de Sergio Leone. Il était une fois...
En Amérique.
En Amérique, voilà.
Ça, c'est déjà vieux, mais ça fait rien. Ça reste un film qui m'a marqué, parce qu'en fait... Mais il y a tout, quoi. Il y a l'histoire, il y a le côté... Il y a le souffle, il y a le côté noir de l'Amérique avec les gangsters, il y a le côté... Enfin, il y a l'image qui est sublime, il y a une histoire d'amour, il y a une musique, bien sûr, qui est... Voilà, c'est le film... Voilà, c'est de Morricone. En fait, c'est le film... C'est un film... plein, je sais pas comment dire ça, quoi. Voilà. Après, il y a bien sûr, il y a des films plus conceptuels, il y a des films plus riches, on va dire, dans le sens de la réflexion. Mais là, c'est un film et de divertissement, une épopée, une histoire d'amour superbe, une histoire de trahison, de grosse trahison, d'amitié, puisque ça part au départ de l'un trahi par amitié, en fait, voilà, trahi par amitié parce qu'il sait que l'on va faire une grosse connerie, donc il vaut mieux trahir plutôt que se retrouver voilà mort que de mourir, et l'autre sait que cette personne va réagir comme ça, donc elle quelque part elle l'amène, voilà, elle anticipe, elle l'amène à faire ce qu'il fait, donc à trahir et à supporter la charge de cette trahison. Enfin, moi, grand film. Grand film.
Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. Satellite's gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday, with Harry, Mark, and John. Satellite's gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love.
Satellite.
le satellite d'amour de Lou Reed, Satellite of Love. Donc cet extrait de Transformer, pas le premier album de Lou Reed, mais après sa période Velvet Underground. Oui, c'est le premier après la période Velvet Underground. Voilà.
Session musicale de Lou Reed. J'imagine que comporte des souvenirs pour toi, Jean-Luc.
Beaucoup.
Vas-y.
Ah ben, j'ai été bercé moi par tout ça, quoi. J'ai été bercé par Lou Reed, les Stones, les Who, enfin le Velvet bien sûr, les Doors, enfin voilà, c'est toute Hendrix.
Tom Waits aussi,
oui, un peu moins, mais Tom Waits aussi. Voilà, c'est ma génération, en tout cas, c'est mon époque, et puis bon, j'étais bien immergé quoi dedans, oui. Et Lou Reed, donc je l'ai vu à Toulouse, je l'ai vu à Fréjus. Voilà, c'est un personnage, c'est un grand, hein, copain de Danny Warhol, enfin voilà quoi, c'est Lou Reed.
Bien.
Ma jeunesse.
Mais tu es pas vieux quand même, Jean-Luc. Jean-Luc Bousquet.
C'est gentil.
Et Jean-Luc, qu'est-ce que tu mijotes alors?
Qu'est-ce que je mijote?
Oui.
Un sale coup. Non, j'ai rien de. J'ai pas d'expo là, la dernière c'était Sarla, donc.
Début 2013.
Et là, non, mais là, c'est du travail.
L'écriture, non, tu as.
Oui, l'écriture. Ben, je fais appel là, tiens, s'il y a des éditeurs, des petits éditeurs qui sont à l'écoute, parce que les gros, c'est difficile. Donc, effectivement, j'écris une fiction. J'ai quelques nouvelles aussi. Mais j'écris une fiction, donc,
Qui s'appelle
Félix et Joana. Qui s'appelle Félix et Joana. Non, qui s'appelle Taureau. Toro, mais T-O-R-O,
à
l'espagnol, parce que Toro, il n'y a pas de A-U, un Toro, c'est avec des O. Pour moi, c'est avec des O, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est pas, voilà, on fait pas de fioritures. Ça s'appelle Toro, mais je vais pas faire peut-être le pitch en quelques secondes, c'est au départ les taureaux, vous savez les taureaux qu'il y a en Espagne, qui sont sur le bord des routes, les taureaux noirs, les grands taureaux Osborne, en fait, qui était là une publicité pour les portos au départ.
Et la silhouette noire, oui,
voilà, la silhouette noire, voilà.
Colline, oui.
Ils font quand même 7 et quelques mètres de haut, et donc qui sont passés au patrimoine maintenant espagnol, voilà. Donc une bande de ça, c'est le début du bouquin, une bande de d'un petit corrida s'amuse à leur couper les corones, hein, bon, voilà.
Les corones.
Si, c'est les couilles.
Les couilles.
Et donc il y a une famille, ça part d'une histoire vraie. Il y a une famille à Puerto de Santa Maria, t'excuses l'accent, en Espagne, donc en Andalousie, qui répare ces taureaux, les fabrique et les répare depuis plusieurs générations. Et donc celui qui actuellement les répare s'appelle Félix. Donc à partir de là on bifurque, quoi. Donc ce fameux Félix part pour réparer les couilles de taureaux qui ont été endommagées par ces fameux anti-corrida. Et donc il va faire la rencontre d'une gamine qui a 15 ans et demi, qui s'appelle Joana et qui est un fugue en fait, mais qui se fait passer, parce qu'elle a besoin de reconstituer un univers un peu plus sympathique, qui se fait passer pour l'arrière petite fille de Pancho Villa.
Ah, les Pancho Villa.
Voilà. Et donc à partir de là, ils vont, c'est une espèce de road movie en Andalousie. Et ils vont faire des rencontres, et puis ils vont réparer ces taureaux, ils vont faire des rencontres. Et puis bien sûr il y aura une petite histoire entre eux, mais bon, on va laisser le suspense, quoi. Mais ils rencontrent des gens, voilà, et c'est un road movie, et voilà, après il faut lire le livre.
Bien, si c'est...
Donc s'il y a des éditeurs que ça intéresse...
Comment on peut les contacter?
Il y a un petit côté donc apparemment loufoque, mais j'ose espérer en tout cas.
Oui, si les auditeurs veulent te contacter pour...
Pas mal de tendresse, de poésie aussi, un petit peu.
Soit pour ta peinture, pour ton écriture, comment on peut te contacter?
On peut me contacter, alors pour la peinture, il y a un site qui est en train de finir de se faire. Donc je ne connais même pas l'intitulé, mais ça, bon, on verra.
Mais si on tape Jean-Luc Bousquet...
Bientôt, si on tape Jean-Luc Bousquet, alors il y en a un autre peintre qui s'appelle Jean-Luc Bousquet, qui a, voilà, sur Internet. Mais je pense que ce sera JL Le B. Bon, avec, entre parenthèses, Jean-Luc Bousquet pour faire la différence. Et puis après, au niveau de la qualité, ils la feront, de toute façon. Non, donc, ce sera JLB, très certainement. Ensuite, j'aime une adresse mail. Donc, c'est Bousquet Jean-Luc, tout lié, minuscule, @gmail.com. Voilà, le site, donc JLB. et puis mon téléphone, je sais pas si je donne mon téléphone, si, le 06 35 48 54 57. Donc voilà, et puis je sais pas, il y a pour l'instant il y a pas d'expo en vue, mais il y a pas mal de matière puisque j'ai pas mal travaillé. Mm-hmm. Voilà. Là je suis un petit peu voilà.
Non, je te disais tout à l'heure que notre émission ne travaille pas nécessairement sur l'actualité. Mmh, mmh. Si les invités ont un concert ou une exposition en vue, bien sûr. Mais je me dédiais une heure de conversation et de musique pour faire un portrait de quelque chose qui, à mon avis, reste ou qui doit rester. Ah. Donc, à mon avis, tout doit rester.
Merci. Mais si j'ai une expo, de toute façon, bien sûr, si, oui. Lorsque j'aurai une expo, je te ferai savoir. Quoi.
Oui, donc à propos d'expo, il y a eu, pour les tableaux que nous avons décrits au début de l'émission, ou peut-être un peu à la moitié de l'exposition, de cette émission, et ces tableaux que nous avons décrits, que nous avons commentés, il a eu un prix, ces tableaux,
oui,
n'est-ce pas?
Oui.
Et toi, tu étais à côté du public qui ne savait pas que c'était
celui qui avait... Il ne faut rien raconter avait... en antenne.
Bien. Et du coup, tu as entendu des commentaires sur
ces
tableaux.
Oui, ça rejoint ce qu'on
disait. Vas-y, raconte à nos auditeurs qu'est-ce qui s'est passé.
Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir que les gens ont besoin d'explications. Donc, quand c'est non figuratif, c'est non figuratif. Chacun projette, bien évidemment, ce qu'il a envie d'y projeter, de projeter sur le tableau. Et donc, il n'y a pas une explication directe, quoi, bien évidemment. Mais par contre, certains pensent que ou essayent d'interpréter le tableau essaye de définir ce qu'a voulu dire l'artiste. Et en l'occurrence, oui, c'est une anecdote. Donc sur un tableau qui avait eu un petit prix, moi j'étais à côté à un moment et il y avait une dame qui était avec un groupe d'amis et qui expliquait ce que le peintre, en l'occurrence moi, avait cherché à exprimer à travers ce tableau. Et donc moi je découvrais en même temps que les gens à côté ce que j'avais voulu exprimer. C'était très intéressant, très enrichissant. Et cela dit, elle avait tout à fait raison dans un sens, je veux
dans
dire.
Sa logique.
Voilà, oui. Moi j'ai ce qu'elle disait, je le découvrais parce que moi c'est pas ce que j'avais mis, mais elle s'était appropriée. En fait, c'est là où c'est intéressant. Elle s'était appropriée le tableau à tel point qu'elle expliquait aux autres ce que moi j'avais voulu dire. Et c'est ça finalement l'intérêt. C'est ça l'intérêt, se projeter son fantasme, ses fantasmes sur le tableau.
Et pour continuer avec l'évolution des tableaux, tu as maintenant une évolution vers les couleurs claires, parce que tu utilises maintenant la chaux.
Les couleurs, c'est encore un bien grand mot, parce que jusqu'à présent, c'est essentiellement dans les noirs ou les bleus de Prusse foncés.
Oui.
Et donc maintenant, je te dis, je suis un peu vicieux, maintenant il y a une couche de goudron, mais dessus je peins en blanc. Donc ce qui fait des craquelures, ce qui fait des... Mais donc il y a le blanc, et souvent après avec un grattage, enfin, on retrouve à nouveau la couche de dessous qui est du goudron. Enfin, mais effectivement, le dessus s'éclaircit nettement.
Bien. Je remercie beaucoup de ta présence,
Jean-Luc
Bousquet. Je te souhaite bonne route, bon tableau, bonne écriture. Et j'espère t'inviter encore
pour parler de Bukowski.
De Bukowski. Oui.
Merci.
Merci à tous.
C'était les rendez-vous de Rosendo. Ça se passe tous les dimanches à 13h, le mardi à 23h. Et puis, bien sûr, il y a le podcast sur cfmradio.fr. Et aujourd'hui, Rosendo recevait Jean-Luc Bousquet.
CFM.
De Moissac à Rodez.
De Moissac à Rodez.
L'esprit rock.